R22, tout le monde. Antenne, tout le monde.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue au TNB, bienvenue au Festival Travelling, bienvenue pour une nouvelle séance dans le cadre de notre programmation de films en avant-première. Ce sont des films qui vont faire l'actualité du premier semestre 2024. C'est une sélection très resserrée cette année qu'on sélectionne avec un choix tout particulier. Et on a une attention tout à fait particulière auprès des films qui sont ce qu'on appelle des films d'initiative régionale, c'est-à-dire des films qui sont produits par des sociétés de production du territoire. En l'occurrence, la société qui est à l'honneur aujourd'hui, c'est Spectre Productions pour un film qui s'appelle Nommé, que nous avons découvert en clôture du festival de Cannes, dans le cadre de la section Acide, l'association des cinémas indépendants pour leur diffusion. Mais avant de passer la parole à Olivier Marbeuf, le producteur et scénariste de ce film, donc Nommé, et à Sarah Salem, qui est la monteuse de ce film, je vais laisser la parole à mes collègues, et néanmoins camarades, du collectif Sous les écrans l'Adèche, qui est un collectif de représentatifs de professionnels du cinéma qui travaillent dans les festivals, et avec lesquels on dialogue au sein des instances représentatives, Carrefour des festivals, le CNC, etc. Mais je leur laisse la parole puisque c'est quand même l'idée de départ, c'est ça, hein. Ah, c'est ça. Je te passe. Merci. Okay.
Bonsoir. Ok. Bonsoir à toutes et tous. Nous prenons la parole ce soir au nom du collectif Sous les écrans l'Adèche. Ce collectif est né suite à la dernière réforme de l'assurance chômage. Il fédère les salariés des festivals de cinéma dont la situation se précarise de plus en plus. Nous sommes programmateurs, programmatrices, projectionnistes, chargés du bureau des films, de la coordination des bénévoles, de la billetterie, de l'accueil des invités ou de l'accueil du public. Nous exerçons des métiers souvent invisibles aux yeux des spectateurs et des spectatrices et pourtant indispensables au bon fonctionnement d'un festival. En renfort des équipes permanentes en place, nous vous accueillons ici au Festival Travelling, à Rennes, mais aussi au Festival Premier Plan à Angers, le Festival des Trois Continents à Nantes, le Festival de Clermont-Ferrand, le Festival de Belfort, ou encore le Festival de Cannes et tant d'autres. En France, plus de 150 festivals de cinéma se tiennent chaque année. Peu de pays peuvent en dire autant, et nous savons que vous mesurez le privilège d'une offre si riche et diverse.
Si la plupart d'entre nous a rejoint le secteur par passion, nous sommes avant tout des professionnels compétents, immédiatement opérationnels et géographiquement mobiles. Pourtant, aujourd'hui, nos métiers sont menacés et bon nombre d'entre nous ne pourront bientôt plus en vivre. D'un festival à l'autre, nous alternons CDD d'usage, contrats de vacation, auto-entrepreneuriat, missions d'indépendants, droits d'auteur. Des contrats courts qui ne garantissent aucune sécurité de l'emploi et ne rendent pas compte de la nature intermittente de nos activités. Nous vivons également des périodes d'inactivité, car il est rare que les contrats s'alignent aussi bien que les planètes. Notre flexibilité fait de nous des travailleurs précaires, au long cours. Mais aujourd'hui, la réforme de l'assurance chômage ne nous permet tout simplement plus de maintenir un niveau de vie suffisant et d'espérer une indemnité au-dessus du seuil de pauvreté entre chaque festival. En effet, il nous faut désormais justifier de plus de 6 mois de travail consécutif pour percevoir une allocation minimum.
Il est nécessaire d'établir un cadre législatif commun à tous les festivals qui protège tous les employés. Nous œuvrons toutes et tous au dynamisme de la filière cinématographique. Et si demain, nous ne pouvons plus exercer nos missions dans des conditions convenables, c'est l'existence même des festivals qui, à terme, sera impactée.
Il est urgent d'agir collectivement pour la survie de nos savoir-faire. Alors, vous qui aimez les festivals, cette lutte est aussi la vôtre. Vous êtes toutes et tous invités à la soutenir en vous joignant à nous et en suivant nos différentes actions via notre site internet et les réseaux sociaux. Merci de votre attention et merci au Festival Travelling de nous avoir accordé cette tribune.
Merci aux représentants du collectif et évidemment l'ensemble du festival, de l'équipe du Festival Travelling et de l'association Clair Obscur se joint aux revendications qui viennent d'être indiquées, qui vous êtes indiquées. Voilà. Je vous invite effectivement à aller voir le site sous les écrans l'Adège qui vous permet de vous renseigner sur les problématiques qui se posent pour l'ensemble des professionnels qui font vivre les festivals en France aujourd'hui. Je rappelle que Carrefour des Festivals, par exemple, représente 150 festivals en France. C'est un véritable écosystème au service du cinéma et au service de films comme celui qu'Olivier a coécrit et à produit. Voilà. Bon, on se retrouve autour de ce film nommé. C'est un film que donc je rappelle le contexte. On l'a découvert au Toutes et Tous. Je crois le monde entier l'a découvert à l'ACID. L'ACID, c'est une sélection de films. C'est une programmation. C'est pas une compétition. C'est une programmation. C'est extrêmement important. Qui est programmée par un ensemble de. C'est un collectif de cinéastes qui se regroupe autour d'une association qui s'appelle l'ACID, Agence pour le cinéma indépendant, pour sa diffusion. Et voilà, ils font un travail remarquable depuis 20 ans. Et c'est devenu une des sélections les plus excitantes du Festival de Cannes puisque c'est une programmation de découverte. Voilà. Et donc, ce film, eh ben, effectivement, je l'ai pris de plein pied. Et surtout, ça a été une formidable découverte. À la fois d'un cinéaste, Sana Anada, j'espère que je le prononce bien, c'est pas mal, et que je ne connaissais pas. Et de surcroît, c'est vrai que sur le papier, je vais être tout à fait honnête avec vous, la guerre, Guinée-Bissau, tout ça, je me dis, bon, alors, on va y aller quand même, mais bon. Et honnêtement, franchement, j'ai pris une claque. Donc, je vous souhaite une bonne projection et je laisse la parole à Olivier Marbeuf et à Sarah Salem. Et évidemment, on se retrouve toutes et tous après la projection pour une petite discussion.
Merci beaucoup Fabrice, merci à vous d'avoir bravé la pluie pour venir ici, mais bon c'est une bonne occasion de venir au cinéma. Oui, bon, on va être assez bref parce qu'on va avoir du temps pour discuter du film juste après, pour dire déjà en fait que bah, c'est important de parler après des coordinations de précaires, parce que le film que vous allez voir en fait c'est un petit miracle quoi. C'est un peu un petit miracle, faut dire la vérité. Lorsqu'on en est là et lorsqu'on produit des films, on est au moment du plaisir, quoi. C'est-à-dire que le truc existe, le film existe. Sana va arriver en France au début du mois de mars parce que le film sort en salle le 13 mars. Et alors, si vous l'avez apprécié, je vous encourage à en parler autour de vous. Il va revenir en Bretagne, il sera aussi dans différentes villes et pas simplement à Rennes, mais vraiment en Bretagne aussi, dans la Bretagne dure, quoi, sur la côte, tout ça, des beaux endroits. Qui sont vraiment des beaux endroits parce qu'ils ont vraiment aussi une envie de voir ce type de film-là. Moi, c'est une assez longue aventure. Donc, quand on arrive là, effectivement, c'est un moment un peu particulier qui est presque un petit moment de plaisir depuis le Festival de Cannes jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que le film, il commence à être partagé. Et nous, c'est quelque chose qu'on a porté. Moi, ça fait 7 ans que je travaille sur le projet et je l'ai coécrit, on l'a réécrit, retravaillé avec Sana. Donc, c'est vrai que quand c'est là, c'est ce moment de plaisir. Mais on sait aussi que c'est énormément de précarité et de sacrifice pour que ça existe. Et là, le mot est pas faible pour ce type de film-là, c'est des conditions de tournage qui sont difficiles et c'est énormément de belles personnes qui se sont assemblées pour faire exister ce film et qui l'ont tenu ensemble. Donc je voulais déjà en fait dire que je parle aujourd'hui au nom de Spectre Productions, donc qui est un producteur, une maison de production que je dirige ici à Rennes, mais aussi au nom de nos coproducteurs, Elis Filmes à Lisbonne, au Portugal, Gerason Noventa, qui est un producteur angolais, et surtout Jeba Filmes, qui est un producteur de Guinée Bissau, une coopérative de production. Donc on a fait ce film à 4 et on en parlera après de comment on a réussi à assembler nos forces et nos énergies pour faire ce film. Mais c'est pour dire que voilà, il y a une forme de magie, vous allez voir le film aussi a cette magie, que les choses soient là. Et moi je suis très heureux que vous puissiez partager cette magie, mais je serais très malheureux que vous pensiez que les choses se passent par magie, donc que les précaires passent juste avant. C'était quand même une chose assez importante pour moi parce que c'est des choses qu'on porte vraiment à bout de bras et dans lesquelles on donne une partie de sa vie. Et pas juste parce qu'on fait des métiers passion, hein, on fait un métier, quoi. C'est juste un métier, c'est pas un métier passion, on a des passions dans la vie. Mais ça, c'est notre problème, nos passions. Par contre, il y a des métiers, et des métiers qui sont difficiles à faire. Et on nous félicite après quand c'est là, et parfois on nous rend la vie difficile pour essayer de faire les choses. Donc c'est toujours un espèce de paradoxe. Et pour recevoir les compliments, il faut parfois avoir la mémoire un peu courte. Ce qui n'est pas le cas de ce film, mais ce qui n'est pas mon cas non plus. Donc voilà, je voulais juste te dire que c'est un film de lutte et je ne peux pas le montrer aujourd'hui sans une pensée aussi pour le peuple de la terre de Palestine. C'est aussi pour eux qu'on fait ce genre de choses-là et je passe la parole à Sarah.
Bonsoir à tous, c'est vraiment un plaisir de présenter ce film ici à Rennes où le montage a eu lieu. Donc moi je suis arrivée au moment de la post-production, donc c'était en 2022. En juillet 2022. Et donc j'ai réalisé le montage de ce film aux côtés de Sana Anhada. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu participer à ce projet qui, comme le dit Olivier, est un miracle à bien des niveaux. Moi, ma partie du travail, comme vous allez le voir, elle a impliqué le fait de manier des images qui sont très précieuses, que je vais vous laisser découvrir. On pourra en parler après avec plaisir. Et voilà, ça a consisté, mon travail a consisté à créer aussi une relation avec Sanan Anhada pour essayer de transmettre au mieux sa mémoire qui se déploie à différents niveaux. C'est une mémoire historique, mais c'est aussi une mémoire très personnelle, faite d'émotions voilà, très profondes. Et j'espère qu'on peut en avoir un aperçu avec ce film. En tout cas, je serai très heureuse d'en parler avec vous ensuite. Merci à vous.
Juste pour dire, pour finir après ça, ce que dit Sarah, c'est que vous allez découvrir donc le film d'un jeune homme de 75 ans, qui donc c'est un cinéaste qu'on découvre, en fait qu'on redécouvre, et que l'histoire a parfois des chemins tortueux. Mais on est très heureux aussi d'avoir porté ce film-là pour Sana, que c'est son premier film depuis 25 ans. Et donc voilà, c'est vraiment fort quoi. Merci à vous, bon film.
Bon salut.
R22, tout le monde.
Juste pour me présenter, puisque j'arrive après, donc je suis Anne Hénaff, responsable artistique programmatrice. Avant de commencer l'échange, je vous indique que la rencontre va être diffusée donc, sur une web radio, hein, R22, pour vous prévenir. Mais en aucun cas, donc, ça ne doit empêcher l'échange, bien loin de là. Quoi. Peut-être pour commencer, s'il y a une impression... Non. Bon, je vais juste commencer, passer la parole très rapidement à Olivier. Enfin, c'est vrai que c'est un film que l'on a découvert et qui nous a énormément touchés. Il était important, comme Fabrice a dû vous le dire, donc de le retrouver dans la programmation. On estime que c'était notre rôle. Et puis, il y a un lien fort aussi avec Olivier Marbeuf, producteur, puisque c'est un compagnonnage depuis de nombreuses années. Le film donc, que l'on voit là, est-ce que tu pourrais expliquer comment et pourquoi donc, tu es arrivé dessus, comment, quelle est cette histoire pour justement donc, nous dérouler justement ce qui s'est passé?
Alors oui, bon, l'histoire entière est assez longue, donc je vais essayer
d'abréger.
Voilà, je vais abréger, mais quand même vous donner quelques éléments un peu importants. Déjà, en fait, Spectre Productions, moi, c'est une maison de production que j'ai créée il y a 10 ans et qui est essentiellement, qui s'intéresse essentiellement à des histoires qui sont liées aux questions coloniales et postcoloniales, mais et, je dirais décoloniales aujourd'hui. C'est-à-dire une réflexion, en fait, sur les héritages, en fait, de la colonisation dans la constitution du monde contemporain. Moi, je suis d'origine guadeloupéenne et on a beaucoup travaillé, en fait, dans différentes régions qui ont attrait à ces questions-là, c'est-à-dire dans toute la Caraïbe, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est sûr que je n'ai pas rencontré ce matériau par hasard. Et en fait, la première fois que j'ai... Le premier contact que j'ai eu avec ce projet, c'est en 2011. C'est pour ça que je dis que l'histoire est longue, parce que ça fait un truc qui... Ça remonte dans le temps, mais je vais faire rapidement. Et en 2011, je rencontre une cinéaste portugaise qui s'appelle Filipa César, et avec lesquelles moi, j'ai produit de nombreux films. Et en 2011, c'est le moment où on commence à travailler ensemble. Et elle fait un premier film, en fait, à partir d'archives qu'elle a découvertes avec un cinéaste qui s'avère être Sanan Anhada, mais je ne le connais pas encore, en Guinée-Bissau. En fait, Sana a été chargée par Amilcar Cabral, qui est donc le leader de la révolution en Guinée-Bissau, qui va mourir un an avant l'avènement de la révolution. Et Cabral a une, comment dire, une vision révolutionnaire assez influencée aussi par ce que Cuba fait à l'époque, c'est-à-dire qu'il considère que le cinéma est très important dans le cadre de la révolution. En fait, on est dans une époque qui est pré-internet, mais dans Cabral, de toute façon, tout est très visionnaire. Ses écrits sur l'agronomie, sur le rôle des femmes dans la société sont extrêmement contemporains et renversent complètement l'image eurocentrée qu'on a de la pensée de l'écologie ou de l'égalité des genres. et ils vont être publiés bientôt en français, j'en suis très heureux. Mais Cabral, à ce moment-là, comprend quelque chose qui est presque du prêt à Internet. Il le dit, si on fait une lutte dans un pays aussi petit, et après toutes les grandes indépendances, hein, on est dans les années 70 maintenant, c'est-à-dire que la plupart des pays du continent africain sont devenus indépendants, et la Guinée-Bissau est l'un des derniers pays, en fait, dans cette situation coloniale, si on excepte la France, qui possède encore beaucoup de colonies qu'on appelle territoires et départements. Voilà, ça, on va mettre la France à part pour ce soir, parce qu'après, on va me reprocher si...
Parce que sinon, on te connaît,
ouais, systématiquement.
En fait, on va quitter le sujet et on va partir.
Non, mais on ne le quitte absolument pas. C'est juste une balle perdue. C'est juste une balle perdue, mais ce n'est pas grave.
Un pas de côté, on va dire.
Ouais, c'est pas un grand pas de côté, parce que la France est concernée par cette histoire en premier lieu, puisqu'en fait, aussi, dans le cadre de la révolution guinéenne, ce qui va être très important, c'est que Cabral va penser qu'il faut faire du cinéma. Et c'est important de faire du cinéma pour pouvoir diffuser des reels, des bobines en Europe pour que la lutte soit soutenue par les Européens. Et donc, il va envoyer 5 jeunes hommes et femmes se former à Cuba. Parmi eux, Sananada, qui rêve, lui, d'être médecin. Il rencontre Cabral dans un maquis. Et Cabral choisit des gens. Lui, il est habillé en blouse blanche. Il dit, toi, là, tu vas devenir cinéaste. Et donc, son rêve de devenir médecin. On voit Sana enfant dans une des archives. Il est envoyé à Cuba. Il va être formé et va revenir après en Guinée pour documenter le processus de la fin de la guerre et aussi l'après-guerre. Parce que le projet de Cabral, non seulement c'est de documenter la guerre dans le cadre de la lutte, mais c'est aussi en fait de faire une archive de la construction de l'État guinéen, parce que la Guinée étant un pays avec une Guinée-Bissau est un pays avec une géographie très particulière où quand l'eau monte chaque année, le pays devient comme une archipel. C'est très difficile de circuler d'un endroit à un autre, et Cabral pense en termes de communication qu'il faut filmer différentes pratiques agricoles, des pratiques des femmes, des questions d'hygiène, des questions de et faire circuler avec un cinéma mobile. C'est savoir pour éduquer la société et pour construire une nation. Donc c'est vraiment une vision extrêmement contemporaine. Il va la réaliser en partie parce qu'il est assassiné un an avant la fin de la Révolution, mais Sana va être de ces cinéastes-là. Simplement, après la Révolution guinéenne, le film le raconte, ça ne se passe pas comme prévu, et une série de coups d'État en fait, va se dérouler aussi, et les bobines vont être perdues. Donc en 2011, en fait, Philippa César retrouve avec Sana les bobines. En fait, il reste moins de 30% de ce qui avait été filmé, non développé, et que personne n'avait jamais vu. Tout le reste a été mangé par le syndrome du vinaigre.
Et elles étaient où
Elles étaient rangées, les coups d'État, vous savez, c'est d'administration en administration. Elles se retrouvent dans une espèce de salle, et un jour, Philippa dit, c'est quoi ces bobines? Et il trouve ça. Sana n'a jamais vu le contenu de ce qu'il avait filmé tout ce temps-là. Ils ont filmé plein de choses. Et donc, c'est le début de l'histoire. Des premiers films se font. Moi, je rencontre Sana en 2016, lorsque sort le film Spare Reel, qui est un film qui raconte la découverte de ces bobines réalisé par Philippa César, avec déjà un petit peu des fragments d'archives. Et là, on rencontre Sana et on fait une tournée ensemble à travers le monde pour présenter ce film Spare Reel, où il est comme un grand témoin. Et je lui dis, mais Sana, mais tu n'es pas cinéaste, en fait? Il me dit, ah, si, mais moi, j'ai des tonnes d'histoires, mais on s'adresse comme moi, comme une espèce de mémoire vivante, mais j'ai des scénarios, si tu veux. Et il me montre ce scénario de ce film qui était pas comme il est aujourd'hui, mais c'est là qu'on commence à travailler dessus, à réfléchir à comment faire le film. Et aussi, dès le départ, moi, germe l'idée que ces archives en question doivent revenir dans un film de Sana comme une forme de restitution.
Ouais, justement, quand on parle de ces archives, il y a une forme de fluidité qui est installée et elle rythme le film. Et elles font, je trouve, le lien entre ce qui est donc de la réalité, enfin de ce qui est raconté, et en même temps le lien histoire avec donc les. Comment vous avez travaillé justement cette partie-là, parce qu'elle est quand même importante. Retrouver les archives, donc même si elles sont peu nombreuses, mais ensuite même peu nombreuses, il y a le récit de la fiction. Comment s'est fait le choix ensuite de ces archives-là et comment vous avez travaillé ensemble?
Du coup, moi, je vais passer après la parole à Sarah sur vraiment l'aspect du montage et des choix et des partis pris de ce montage, ce choix narratif et esthétique. Juste pour dire que dès le départ, en fait, on écrit un scénario où on met des archives virtuellement, parce qu'on ne les a pas vues. Il y en a plein qu'on n'a pas encore vu, mais on se dit à tel moment, et donc on écrit, parce que là c'est vraiment une question de production, et moi je suis à la fois scénariste et producteur du film, on écrit en fait une idée d'archives, que des archives reviennent. C'est une question de production, hein, parce que si on prend le scénario de départ, c'est un film de guerre, avec des soldats, des machins. Je regarde ça avec Sana, je lui dis, bon, on est en... c'est quand même un film, il va falloir 10 millions pour faire ça, quoi. Il faut des soldats. Et puis on est en Guinée-Bissau, pays qui n'est pas stable. Faire un film de guerre dans un pays où les coups d'État sont assez réguliers, c'est quand même un peu compliqué. On se dit, tu crois qu'on tient ? Et il y avait une dimension dans la première version du scénario qu'il avait écrit avec un scénariste portugais, je crois que c'est important. Je pense que comme un Portugais, eux, ils sont impliqués dans la guerre de manière très violente, comme nous avec la guerre d'Algérie, le scénario était archi-violent. Et je pense que le scénariste portugais qui a accompagné Sana, qui est une personne très douce, qui malgré le fait qu'il ait vécu des histoires terribles, il reste dans une espèce de douceur. Je dis, mais c'est toi qui a voulu faire... Parce que le film, il est quand même hyper cruel et il mettait beaucoup en scène les Portugais. Donc moi, il y a deux choix que j'ai fait en entrant sur le scénario. J'ai dit, on va faire deux choses. On va essayer de faire un film de guerre où il n'y a presque pas la guerre. Et on va faire un film de guerre où il n'y a pas les Portugais. Bon, ça, c'est une position décoloniale, mais qui correspondait aussi aujourd'hui, de dire, en fait, la guerre, elle va raconter l'histoire des Guinéens contre les Guinéens, contre eux-mêmes, dans leurs propres histoires. On n'a pas besoin d'avoir les Portugais. Et du coup, c'était un truc important, parce que ça fait un choix où, finalement, on renvoie aussi ce que Sana voulait raconter, qu'en fait, en réalité, le film est un film sur une histoire de la Guinée contre un ennemi, mais contre aussi... l'histoire elle-même.
Contre elle-même, ouais.
Voilà. Après, ça, peut-être Sarah peut nous dire comment devient après dans un montage.
C'est très intéressant. Ça, c'est un point de vue de l'intérieur. Et maintenant, donc, comment vous avez pu travailler ?
Ben alors, pardon. Si je reprends chronologiquement la chose, avec Sana au studio, en fait, on a reçu le disque dur des archives numérisées, si mes souvenirs sont bons, au bout de la deuxième ou troisième semaine de montage. Donc, dans un premier temps, on s'était occupé de tisser la trame principale, la fiction qui était écrite donc dans le scénario que j'ai reçu. Donc, il y avait les séquences qui se succédaient, et puis entre certaines séquences, il y avait une séquence d'archives. Mais voilà, comme vient de le dire Olivier, on n'était pas, on savait pas encore ce qu'on allait trouver en fait sur ce fameux disque dur. Donc, on a tout dérushé avec Sana. Ça a été un très très long travail. Très minutieux, en fait, on a dérushé à peu près 40 heures de rush. D'ailleurs, ça, c'est seulement les rushs de Sana, plus, de Sana et Flora, ceux qui ont été rescapés. Plus, il y avait d'autres sources là, qui ont été utilisées, donc des cinéastes qui soutenaient le mouvement de révolution. Donc Sana, c'est à ce moment-là en fait qu'il y a eu un travail vraiment créatif qui a débuté entre Sana et moi autour de ces images, parce que lui en fait chaque image quasiment lui rappelait des souvenirs, des contextes précis. Il voyait des visages de gens qui sont morts, des images en fait que Sana, pour certaines, a risqué sa vie pour réaliser. Donc en fait, si vous voulez, il y a eu à partir de ce matériau qui est rescapé, il y a eu en fait des discussions fleuves autour d'une multitude de souvenirs. Et moi, en fait, mon travail a consisté à incorporer cette histoire très personnelle, singulière et violente, et à essayer de canaliser cette énergie pour tisser avec le scénario. Et mon souhait, en fait, c'était de faire en sorte que ces images, elles aient finalement un statut pas uniquement documentaire, pas d'archives. Je voulais qu'elles soient vivantes. J'avais envie de trouver en fait des points d'accroche dans les images filmées, entre les images contemporaines et les images d'archives, pour créer un récit qui soit organique et comme activer une sorte de force qu'il y a dans ces images-là, pas juste s'en servir comme référence historique. Et par exemple, voilà, j'étais très contente de trouver certains tout petits fragments, comme je repense à cette image de femme qui pêche avec son grand filet circulaire. Ça, c'était pas du tout prévu, et c'est en regardant attentivement et en classant les images, au moyen d'un système que j'ai inventé sur le logiciel pour essayer de classer selon certains critères, qu'on a trouvé des images précises, des détails qui permettent de rendre l'ensemble organique.
C'est aussi pour rebondir sur ce que vient de dire Sarah. Elle raconte le processus de montage, qui est aussi le processus d'écriture, parce qu'il n'y a pas de fiction avec Sana. Hein. Vous passez du temps avec lui, il vous raconte des histoires. et on fait des propositions de scènes. C'est une fiction que si on n'est pas de Guinée-Bissau, parce que le film a été montré hier en première à Bissau. Et les gens regardent ça comme un documentaire parce qu'ils reconnaissent, en fait. Et lui tente habilement de créer des personnages, mais eux, ils les renomment du nom des vrais personnages qui sont la source de cette histoire-là et qui sont des gens qui ont été à la tête des premiers gouvernements de Guinée-Bissau, qui se sont fait la guerre coup d'État après coup d'État. Donc, c'est une fiction un peu particulière parce que c'est comme une histoire vécue que lui a besoin de transformer en fiction pour des questions presque en plus de sécurité personnelle. Hein. C'est aussi un truc où, Fana, il se dit, après ce film-là, je ne sais pas si je vais pouvoir faire beaucoup de choses en Guinée. Quoi. Il l'appréhendait un peu, on attend un peu les retours là-bas.
D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que le micro, donc, il peut circuler? Ou si ce ne sont pas des questions, tout simplement des réactions vis-à-vis du film que vous avez vu hein? Non? Alors, on va peut-être poursuivre dès lors sur la partie aussi où on parlait de celle de la musique. Parce que c'est vrai que lorsque j'ai vu ce film, cette notion de musique m'a paru très importante, ne serait-ce par le rite qu'il y a au départ. Donc, parce que c'est un film qui se découpe en trois parties. Et la première est très brève et on voit ce rite qui est mise en place avec cet instrument, le mbolo, qui est vraiment important dans la culture mandingue. Et là, je me suis demandé pourquoi, comment. Et après, on retrouve la musique sous des formes variées qui sont inscrites avec un répertoire, du moins des instruments dits africains, mais plus largement. Donc, comment vous avez travaillé? Comment ça s'est arrivé? Parce que moi, j'ai le sentiment que c'est une troisième actrice. Et ça permettra de rebondir sur autre chose après.
Déjà, il y a un rapport, on parlait de restitution, il y a une assez belle histoire, c'est-à-dire que dans le cadre du processus de travail sur la musique, on va rencontrer Remna Schwartz, qui est en fait le fils de José Carlos Schwartz, dont on entend des musiques in dans le film. C'est-à-dire que c'est le musicien qui a écrit des chansons au moment de la Révolution, qu'on entendait à la radio, qui étaient aussi des chansons qui étaient un peu codées, qui servaient à dire des choses sans le dire. Et donc, la musique est réalisée par son fils. Bon, José Carlos Schwartz, il est mort d'un accident quelques années après la révolution de l'indépendance de Guinée. Donc il y a une espèce encore de mouvement interne dans le film où il y a un effet de reprise. Le fils reprend aussi des musiques, certains étant des thèmes de son père, inventent des nouveaux thèmes. Et donc il y a une espèce d'idée on parle beaucoup de questions de restitution pour le continent africain, mais je trouve qu'on aborde ça de manière assez légère. On a l'impression qu'il faut rendre des objets. En fait, il faut retisser des liens, il faut refabriquer des choses présentes. C'est pas que les objets du passé, mais là, le film, il a cette volonté de se remettre en place dans le présent, parce que la question que pose Sana, c'est effectivement la question de l'utopie révolutionnaire aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce qu'il en reste? Et je voulais juste indiquer qu'en fait, pourquoi c'est compliqué, c'est parce que dans le récit national guinéen, les guerrieros, c'est des héros intouchables, comme dans toutes les révolutions et les luttes d'indépendance. Et le fait qu'ils soient intouchables a un peu bloqué un processus démocratique, puisqu'en fait, on voit que c'est aussi eux qui sont en partie responsables, et pas tous, mais en partie, on voit bien qu'il y a plusieurs options d'une certaine situation de corruption dans le pays. Ce qui est quand même très difficile à dire encore aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que l'idée, c'est aussi pour Sana, c'est d'exorciser ça pour que le pays, enfin, se projette vers un autre futur. Donc voilà, et pour dire qu'aussi Remna a apporté des musiques de manière extrêmement généreuse, et je pense qu'après, tout le montage s'est restructuré autour de ce travail musical pour que le film devienne un film musical, quasiment.
Oui, grâce à la musique, j'ai trouvé à certains moments des solutions pour emmener justement la narration. Il y a l'aspect du bombolon là dont vous parliez aussi. Je pense que c'est un aspect qui est écrit vraiment comme un personnage, quoi. Le bombolon est un personnage du film. C'est Sana qui en joue d'ailleurs lui-même à certains. Enfin, quand on l'entend, c'est donc Sana qui l'interprète. Et en fait, donc, je pense que vous avez saisi que c'était un langage codé. Je me rappelle que Sana me racontait que donc ça sert à communiquer d'un village à un autre et que les autorités portugaises, en entendant ce son, disaient « Ah, ils sont encore en train de danser, là ». Donc, ils ne se doutaient pas du tout que c'était un moyen de s'organiser, de communiquer et d'être en lien. Et donc, oui, ça, moi, ça m'a beaucoup aidée aussi sur les séquences d'archives, parce que j'ai, encore une fois, pour garder la vivacité de cette matière, je me suis servie aussi rythmiquement de ces thèmes au bombolon. Il y a eu beaucoup d'allers-retours aussi avec Remna sur certaines parties pour créer quelque chose entre image et musique qui soit fluide.
Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en termes de son, en fait, Sana, il est ballante. C'est-à-dire que, en fait, bon, il vient d'une, à peu près les 32 ethnies qui composent la société de Guinée-Bissau, qui est un delta, donc c'est un endroit de convergence de beaucoup, beaucoup de groupes de la région. Et donc, le problème, c'est que le bombolo, il se joue dans ta langue, en fait. Et donc, en France, en fait, il y a très peu de ballantes, et donc les joueurs de bombolo viennent d'autres ethnies. Donc, en fait, pour lui, c'est un non-sens. Il dit non, mais il peut pas. En fait, il s'agit pas juste de jouer de la musique, trouver un musicien qui en joue. On a cherché un bombolo en Île-de-France, on a cherché des joueurs. Mais venant pas des mêmes communautés, c'est comme si c'était pas la même langue, en fait. Et donc, on pouvait pas, et là, c'était un peu non négociable avec Sana, faire jouer une musique qui racontait autre chose que ce que ça devait raconter. Donc, il y avait aussi un enjeu avec lui, et tout le long, je pense, du processus, mais on va aussi en parler avec Damien. Avec Sana, en fait, tout a beaucoup de sens et toute la mémoire est au présent. C'est-à-dire que chaque chose qui se passe, à chaque étape, n'est jamais figée. On est toujours en train... Lui, il réouvre des options parce qu'il voit le film et il voit des événements. Même quand nous, on se dit, bon, c'est fait, hein, c'est tourné, c'est monté, maintenant, les jeux sont faits. En fait, non, il y a quelque part, il y a toujours quelque chose à rattraper dans l'histoire, à être au plus juste. Et on a essayé de faire de notre mieux pour que ce soit le cas. Et notamment parce que la partie post-production, on a quand même pris beaucoup de temps pour que ce soit aussi une manière presque pour Sana de se réapproprier le film, ou un tournage. Bon, y a une équipe, on est en Guinée, je vous passe les détails, mais tout le matériel vient de l'extérieur. Vous avez compris le système de douane, donc on ne peut pas envoyer le matériel cinéma par la voie classique maritime, ce n'est pas possible, puisqu'en fait le film explique pourquoi. C'est-à-dire que le matériel, tu ne peux jamais le récupérer après, ou il faut le négocier des mois et des mois. Donc on a fait venir la lumière par la route depuis Dakar, et le reste du matériel en bagage cabine, ce qui nous a fait des sueurs froides dingues, parce que voilà, vous voyez 15 personnes avec chacun 5 bagages, quoi, c'est juste un truc incroyable. Donc on a ramené tout un dispositif, et le tournage déploie beaucoup, beaucoup de monde, alors que Sana, lui, filmait beaucoup à la main seul. Et je pense qu'après le tournage, c'était un truc qui était tellement énorme, impliquant beaucoup de figurants, beaucoup d'acteurs locaux, que la post-production revenait s'asseoir avec chacun des acteurs. C'était comme se dire, bon, là, on se retrouve sur quelque chose où là, je retrouve mon film. Alors qu'un tournage, c'est quand même, à un moment donné, un truc où, et émotionnellement aussi, où il a été aussi un peu submergé par beaucoup de choses qui se déroulaient et qu'il voyait sous ses yeux se réaliser. Mais peut-être, Damien, tu veux parler un peu du mixage d'un...
Oui, parce que c'est vrai que...
D'un film aussi sonore. En fait,
Alors, c'est pas forcément facile de parler du mixage, parce que c'est quelque chose d'assez sensoriel et peut-être moins intellectuel. Mais ce que je peux dire, c'est que Sana était présent tous les jours. J'ai jamais été un seul instant sans lui. Et que justement, parce que c'est sensoriel, je pense que, pour rejoindre ce que tu disais, il vivait quelque chose à ce moment-là de très intense pour lui, parce que par moments, il a pleuré, ça je peux le dire. Et du coup, c'était... Donc il revivait, parce que c'est un moment quand même où le film se révèle un peu, où on découvre les musiques, où on les met plus fort et plus, de manière plus intense. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'émotions à ce moment-là. Donc c'était à Rennes. Et donc c'était un moment fort pour moi de vivre ça. Et puis par rapport au Boom Bloom, pareil, il a parlé beaucoup de souvenirs et de choses très précises sur cet instrument. Par exemple, à un moment, on voit un personnage mettre la tête au sol pour entendre. Donc il m'a expliqué que c'était comme ça qu'on faisait pour écouter, parce qu'en fait c'est pas fort du tout. Il me disait, en fait, on n'entend pas beaucoup l'instrument quand c'est de village en village, c'est très loin. Donc voilà, c'était des choses comme ça. Et puis il y a eu un autre aussi élément qui a été important, c'est le grelot. C'est un petit détail, mais il n'existait pas. Il avait été un peu oublié. Et c'est Sana qui m'a dit, mais il faut absolument qu'on entende le grelot. Et on était à la fin du film, au moment où Nambu prend le... Et on n'avait pas le... Enfin, on avait un petit son, mais pas suffisant, pas assez diégétique. Et on a refait un son spécialement pour ça, et on l'a remis sur... surtout le parcours de ce tissu. Voilà.
Ouais, ben, ce qui est drôle, c'est que tu dis là, ça, c'est aussi la direction d'acteurs au plateau, avec Binette, qui est l'actrice principale, qui est donc guinéenne, et qui est actrice et cinéaste, qui est à Londres aujourd'hui. Et elle sera là aussi pour certaines des premières. Et elle racontait que, voilà, on est prêt à tourner, et puis ça, là, il y a un instant, et puis pendant un quart d'heure, il lui raconte qu'en fait, le bébé ne peut pas être porté de ce côté-là. Parce que le plan est là, tout est en place. Hein. Et en fait, il dit, ouais, mais Binette, mais je dis, mais je peux pas parce que la caméra est là. Et donc, grande discussion en disant, non, c'est pas possible que tu portes de ce côté sur ce sein-là, c'est sur l'autre sein que les femmes en Guinée portent. Et donc là, tout le monde se regarde, Binette regarde, il dit, ok, on y va. Et ça, c'est des trucs où d'un coup, leur venait une image qu'il avait vue. Et il fallait absolument que cette image-là, elle soit juste pour lui. Et ça, c'était très exigeant pour nous, qui parfois avait des équipes où tout le monde est hyper crispé parce qu'il fait à 80% d'humidité et il fait 35 degrés. Et que l'équipe te regarde avec les yeux en se disant, là, ils sont en train de craquer. Et effectivement, il fallait aussi tenir ces moments-là, qui ont été aussi un élément qui a obligé l'équipe à rentrer aussi dans le monde de Sana. Pas juste à bien faire son travail, c'est une super équipe, ils sont très talentueux. Mais à un moment donné, il y avait des choses qui exigeaient qu'on leur offre le temps. Et je pense que ça a créé vraiment quelque chose de très fort autour du film avec l'équipe. Combien de temps durait-il ? Alors, un peu plus longtemps que prévu. Pour la bonne, c'était donc 8 semaines de tournage, entièrement en Guinée-Bissau. 5 semaines en brousse, avec vraiment, bon, moi j'ai été donc présent une large partie du tournage où l'équipe te dit c'est quoi le dernier jour ici, parce que bon, on a pris quelques personnes qui avaient peu tourné en Afrique, faut pas le faire en général en production, parce que tu découvres ce que c'est qu'un insecte un peu plus gros que ceux que tu as ici, tu découvres plein de trucs quoi. Et donc la personne qui était notamment en son, la Guinée, ce qui est magnifique, c'est que c'est un pays hyper sonore. Donc le gars, le preneur de son, qui enregistre une scène de dialogue, il dit, là, il y a des oiseaux tout le temps, Olivier, tout le temps, en permanence. En fait, on a dû sous-sonoriser l'ambiance pour pouvoir avoir un niveau correct au niveau des voix pour après, au montage, on rajouter. Tellement, en fait, il y a du son naturel. Il me dit, au casque, dès qu'on est parti de la campagne, le preneur de son, il était heureux parce qu'il dit, enfin, tu vois, des moments donnés où il peut y avoir vaguement un espèce de silence, tu vois. Parce qu'après, au montage son, quand vous avez des oiseaux qui chantent, c'est pas si facile que ça à monter. Et donc, ça, c'était vraiment un élément difficile. Donc, on a fait 5 semaines dans des conditions difficiles quand même en brousse, et donc 3 semaines dans la ville de Bissau. Et donc là, on était à 8 semaines avec tournage Noël Nouvel An. Et l'équipe a attrapé le Covid. Et donc là, c'est un moment de production, mais qui soude, hein, mais qui est un moment de production qui est très compliqué, parce qu'en fait, à cette époque-là, en Guinée, toujours aujourd'hui en Guinée-Bissau, il n'y avait pas le protocole de rémission qu'on avait en Europe, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas un test négatif, vous ne sortez pas. C'est-à-dire que même après une semaine ou après 10 jours, et là, il nous restait 2 jours de tournage. Et donc, moi, j'ai fait du clap, je ne sais plus qui a perché, quoi. On a remplacé un peu une partie de l'équipe et on a dû réussir à exfiltrer tout le monde en discutant avec les ambassades pour avoir des tests négatifs.
Donc, voilà, comme quoi.
Là, ce que j'avais une équipe qui nous regardait, les réunions le soir en disant, bon, chaque jour, on testait les gens. Et c'était surtout les chefs de poste qui étaient malades. Et donc, c'est compliqué de dire, bon, on rentre tous et on va laisser le chef opérateur, le preneur de son, là, c'était pas possible. Donc, mais ça a soudé tout le monde parce qu'on est vraiment restés tous ensemble. On a fait en sorte aussi de protéger aussi le territoire parce que nous, on peut repartir en Europe et puis on est un peu malade avec le Covid. Mais si tu as un Covid qui se répand en brousse où il n'y a pas accès à l'hôpital directement, c'est très grave. Donc, on avait aussi une éthique que tout le monde soit bien. Et pour dire une dernière chose aussi en rapport avec ce contexte guinéen et cette coproduction qu'on a fait, en Guinée, en fait, il y a très peu d'infrastructures techniques pour le cinéma. Il n'y a pas d'école et de formation, etc. Et l'apport, en fait, du coproducteur guinéen qui est énorme pour le film, en fait, c'est aussi aux nouveaux acteurs, pour vous dire qu'en dehors de Binet, tous les acteurs sont des amateurs. Parce qu'il y a une tradition théâtrale hyper forte en Guinée. Et c'est assez beau de voir aussi un pays où, qui est vraiment un pays voilà, qui est assez pauvre et dans des grosses difficultés infrastructurelles, cependant qui a une tradition autour de la question du théâtre et qu'on est venu pour faire le casting, donc c'est pas mal de mois avant le tournage. En fait, on avait, je ne sais pas combien de personnes, mais à peu près 80 personnes qui savaient tous plusieurs rôles. Donc tu vois, tu arrives et tout, tu dis, bon, je vous joue ça, ça. Et c'était fou, j'ai dit, mais tout le monde a appris le rôle, ils sont combien à avoir appris les rôles, tout ça. Et ils avaient vraiment bossé, et on a simplement dû leur dire, bon, quand tu as une caméra qui est près de toi, tu n'es pas comme dans une salle où tu dois scander, parce que les acteurs de théâtre, ils ne jouent pas comme les acteurs de cinéma. Mais ça a été hyper bien intégré, je les trouve très talentueux, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'hyper fort, parce que là, il y a une précarité matérielle, mais en termes de professionnalisme, ça a été très sérieux, la manière dont ils ont travaillé. Et ça a été vraiment un plaisir. Et ils sont, voilà, moi, je les trouve extraordinaires. Et c'est vrai que Binette, qui, elle, est une actrice professionnelle, a aussi tiré tout le monde dans une direction où je trouve qu'ils font... C'est vraiment extraordinaire ce qu'on a obtenu avec eux. Et voilà, je voulais aussi leur rendre hommage parce que c'est un sacré travail avec des gens qui, parfois, avaient vraiment une demi-journée pour venir sur le plateau. Quoi, ils avaient des grandes distances à parcourir et tout. Donc ça, c'est aussi ça, une partie du miracle, je dirais.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Parce que la question linguistique s'est posée aussi. Parce que, comme vous dites, il y a 32 ethnies, c'est ça? Mmh. Qui doivent parler les langues différentes, bien sûr. C'est un peu évoqué, mais l'essentiel de leurs échanges se font en...
Ouais, le créole est une langue qui, en fait, très différemment du créole dans les Antilles, et qui est un créole qui est vraiment né d'une situation, coloniale et de marronnage. Le créole, guinéen est un créole politique. C'est-à-dire que Cabral, en fait, dit « on peut pas lutter si on doit, dans les maquis, tout traduire en 10 langues, c'est ce qui se passe au début de la guerre. » Et ils disent, c'est pas possible, les réunions, elles durent jusqu'à tard la nuit parce qu'il faut faire la version pour... Et là, il amène, en fait, le créole, qui est une langue plutôt parlée dans tous les contextes de relations avec les Portugais, donc plutôt urbain. Et il ramène le créole et il en fait la langue nationale. Donc, quelque part, c'est vraiment un projet de construction nationale. Le cinéma, le créole, c'est deux éléments de la réflexion de Cabral pour fabriquer un pays unifié, qui est effectivement un pays extrêmement varié en termes ethniques. Quoi.
Alors, ils évoquent quand même la façon de dire, par exemple, non. Non,
mais... Là, le créole n'est pas une langue de remplacement, c'est une langue de supplément. C'est-à-dire qu'ils parlent tous créole, mais tous leur langue aussi. Quoi. C'est pas du tout... voilà. On n'est pas dans un projet national façon France. Quoi. On est... Les gens, ils laissent les gens parler aussi leur langue, ça va. Quoi. Oui, bien sûr, là, au lieu de prendre une langue coloniale comme langue nationale, ils décident de prendre le créole comme langue nationale, et puis tout le monde parle aussi une autre langue, en fait, ou même plusieurs autres langues.
Alors, je m'excuse, mais on doit sortir parce qu'il y a une projection. Par contre, il y a tout à fait moyen de continuer à discuter dehors, si c'est possible, puisque...
Je voulais juste qu'on remercie quand même nos partenaires, parce que ce film a été possible... grâce à la région Bretagne, où on a monté ici. Remercier le dispositif Cinéma du Monde du Centre National du Cinéma et l'ICA au Portugal. Donc, c'est ça qui nous ont permis de faire ce film et dire que le film sort.
Voilà, c'est ça, c'est important.
Ouais, c'est hyper important. Là, toute personne qui est là le sait, est un ambassadeur. Le film sort le 13 mars au cinéma en sortie nationale. Il va tourner dans pas mal de, comme je disais, de villes en Bretagne. Mais en tout cas, parlez-en autour de vous. Les exploitants, c'est des gens en fait qui font un peu intimider, si vous voulez, qui programment les films. Et c'est vous en fait qui êtes les intimidateurs. Nous, on peut leur dire ce qu'on veut, c'est super, c'est génial, la presse est énorme, tout est super. C'est quand le public dit pourquoi on n'a pas le film dans le cinéma que ça change quelque chose. C'est comme ça, c'est votre pouvoir, exercez-le. Merci.
C'est vrai, c'est important. Et nous, on l'accompagnera également. Eh bien, bonne soirée, bon festival. Merci beaucoup. C'est ensuite.